Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Commentant l'évangile du jour lors de la traditionnelle prière de l'Angélus au Vatican, le pape François a mis en garde les fidèles ce dimanche contre les faux messies et les faux sauveurs qui veulent aujourd'hui encore se substituer à Jésus-Christ. Depuis la fenêtre des appartements pontificaux, le pape a eu également à nouveau une pensée pour les chrétiens persécutés à travers le monde. En France, on apprenait la libération de Francis Colomb, qui était retenu en otage au Nigeria depuis décembre 2012. On reviendra sur l'enlèvement du père Georges Vandenbosch, mercredi dans le nord du Cameroun, près de la frontière nigériane, avec le père Jean-Grégoire Houlon, le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, l'ancienne paroisse du père Georges. Racistes et chrétiens incompatibles, nous dit Mgr Di Falco, l'évêque de Gap, qui a pris clairement position suite aux insultes contre la ministre française Christiane Taubira. Dans la seconde partie de ce magazine, l'invité du dimanche de Sœur Catherine Aubin, la psychanalyste Marie Balmary. Tout d'abord, ne pas se laisser tromper par les faux messies et ne pas se laisser paralyser par la peur. Ensuite, vivre le temps de l'attente comme un temps du témoignage et de la persévérance. Ce sont les suggestions faites par le pape François sur ce temps de l'attente du Seigneur dans lequel nous sommes, tiré de l'évangile de ce dimanche et proposé à la foule immense présente pour l'Angélus place Saint-Pierre sous un beau soleil d'automne. Manuela Fidji.
Aujourd'hui encore, a dénoncé le pape, nous trouvons de faux sauveurs qui tentent de se substituer à Jésus, leader de ce monde, marabout ou sorcier en tout genre, personnages qui veulent en tout cas capturer les esprits et les cœurs, spécialement des jeunes. Contre ce mauvais esprit, a souligné le pape, Jésus nous met en garde, ne les suivez pas. Et il nous aide également à ne pas avoir peur, face aux guerres, aux révolutions, mais également face aux calamités naturelles, aux épidémies. Jésus nous libère du fatalisme et des fausses visions apocalyptiques. Pour le pape François, l'avertissement de Jésus est toujours d'actualité pour nous qui vivons au XXIe siècle. Il nous répète « Faites attention à ne pas vous laisser tromper, beaucoup viendront en effet en mon nom ». Et c'est donc, a ajouté le pape, une invitation au discernement. Jésus, encore déclaré le pape, a expliqué à ses disciples qu'ils devront souffrir et même être persécutés. Les adversités que nous rencontrons à cause de notre foi et de notre adhésion à l'Évangile sont des occasions de témoignage. Elles ne doivent pas nous éloigner du Seigneur, a-t-il poursuivi, mais bien nous pousser à nous abandonner encore plus à lui, à la force de son esprit et à sa grâce. Le pape a alors abandonné son texte pour une pensée pour tous nos frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Ils sont nombreux, peut-être même plus nombreux que durant les premiers siècles de l'Église, a-t-il fait remarquer. Jésus est avec eux et nous aussi, avec notre admiration et notre prière.
L'Angélus s'est accompagné ce dimanche d'une initiative pour le moins originale. Les fidèles place Saint-Pierre se sont vus ainsi distribuer une médecine spirituelle, la Misericordine. De quoi s'agit-il? Cette miséricordine est une petite boîte dans laquelle se trouve un chapelet, sur lequel peut se prier également le chapelet de la Divine Miséricorde, une image de Jésus miséricordieux ainsi qu'une petite note explicative, le tout sous la forme d'une vraie boîte de médicaments. François a agité une boîte semblable à celle que l'on trouve en pharmacie, sur laquelle est écrit « Miséricordine, 50 grammes pour le cœur ». Le pape serait-il devenu pharmacien? A-t-il alors lancé, déclenchant les rires de la foule massée sous ses fenêtres ce dimanche. Cette initiative spirituelle, qui a déjà eu des précédents en Pologne, était organisée et promue par Mgr Krajewski, l'aumônier pontifical de François. Une médecine conçue, affirmait le pape, comme un moyen de concrétiser les fruits de l'année de la foi et surtout comme aide spirituelle pour l'âme et pour répandre l'amour, le pardon et la fraternité. Le pape d'insister auprès des pèlerins et des fidèles, n'oubliez pas de la prendre parce qu'elle fait du bien au cœur, à l'âme et à toute la vie. Les petites boîtes disponibles en quatre langues, anglais, italien, espagnol et polonais, ont été distribuées donc par milliers ce dimanche à la fin de l'Angélus. On annonçait ce dimanche donc la libération d'un otage français, Francis Colomb, qui était retenu au Nigeria depuis le 19 décembre 2012. L'otage a profité d'une opération de l'armée nigériane contre le groupe islamiste qui le détenait dans le nord du pays pour s'évader. Ansaru, un groupe islamiste probablement lié au groupe nigérian Boko Haram, avait revendiqué l'enlèvement, invoquant notamment le rôle de la France au Mali. Boko Haram qui a affirmé vendredi détenir le prêtre catholique français George Vandenbosch, enlevé lui dans la nuit de mercredi à jeudi par des hommes armés dans le nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria. Le père Jean-Grégoire Houlon est le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux dans le diocèse de Nanterre où il a remplacé il y a 2 ans le père Georges. Il explique l'état d'esprit des fidèles et leur réaction suite à l'enlèvement de leur prêtre.
Nous sommes tous très choqués ici. Toutes les personnes qui l'ont connu, qui ont pu apprécier sa gentillesse, son dévouement de pasteur. En tout cas, je vois des réactions chrétiennes, c'est-à-dire que l'inquiétude pour la personne qu'on a connue, bien sûr, mais en même temps, la confiance du chrétien qui a mis son espérance en Dieu et qui, dans ce moment-là, considère que l'agitation ne sert à rien. Et qu'il y a un témoignage à donner, de soutien, et c'est plus ce qui ressort, vous voyez, c'est plus ce qui ressort. J'ai senti ça vraiment à la paroisse.
Restons en France, peut-on se dire chrétien et exprimer des propos racistes? C'est une question reprise par plusieurs chroniqueurs de l'Hexagone ces derniers jours, dans la foulée des polémiques qui ont suivi les injures à l'égard de Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Monseigneur Di Falco, l'évêque de Gap, a pris clairement position. Certes, dit-il, il n'appartient à personne de juger la foi de quiconque, mais j'affirme avec force et conviction que ces personnes aux propos xénophobes, racistes, antisémites, homophobes ne sont pas catholiques. Il nous explique l'importance de cette mise au point dans un contexte tendu en France.
Je crois que c'est important. C'est vrai que ça a pris peut-être des proportions démesurées, parce que dire que la France est raciste, à mon avis, c'est un faux procès. Parce que dire la France est raciste, ça voudrait dire qu'il y ait quasiment des institutions mises en place pour mettre en œuvre une attitude de racisme. Alors, en revanche, qu'il y ait tel ou tel courant ou qu'il y ait tel ou tel individu qui ait des comportements racistes, ben ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Il suffit de regarder la télévision et les médias. Et j'ai pensé, en effet, qu'il était important de rappeler qu'il n'y a pas de compatibilité entre la foi en Jésus-Christ et puis des attitudes de racisme, de xénophobie, enfin tout ce qui tente à stigmatiser une catégorie de population, quelle qu'elle soit.
Il y a au sein du christianisme des personnes qui prônent le racisme, qui dérivent vers le racisme actuellement?
Je ne dirais pas qu'il y ait des catégories de personnes qui se disent chrétiennes qui prônent le racisme. Néanmoins, on peut être surpris parfois de voir des personnes qui se disent chrétiennes, qui se disent catholiques et qui tiennent des propos qui ne sont pas acceptables dans la bouche de chrétiens. Je pense en particulier les propos de tel ou tel chrétien, enfin telle ou telle personne qui se présente comme chrétien ou catholique. Les propos qui sont en particulier concernant la garde des Sceaux ne sont pas acceptables de la part de chrétiens, de la part de gens qui se présentent catholiques et qui parfois même dans la bouche de prêtres traditionnalistes. Je pense que ça n'est pas acceptable. On peut tout à fait être en total désaccord avec une loi. Mais à ce moment-là, on a des arguments pour s'opposer à la loi, pour la combattre avant qu'elle soit votée. Mais je pense que lorsqu'on s'en prend aux personnes, ça montre bien qu'on n'a plus d'arguments. Donc combattre des idées, c'est une chose. S'en prendre aux personnes, ce n'est pas admissible de la part de personnes qui se présentent comme chrétiennes, catholiques, et en particulier encore davantage quand c'est dans la bouche d'un prêtre.
Alors justement, en France, récemment, il y a eu, notamment à cause de réformes de société, des tensions entre le monde catholique et le gouvernement. Comment l'Église peut faire entendre sa voix sans être amalgamée comme réactionnaire ou raciste?
Un certain nombre l'ont fait. Quand c'est un projet de loi, par exemple, on peut tout à fait, avec des arguments, et comme certains l'ont fait dans le cadre de manifestations pacifiques, démontrer le désaccord de la communauté catholique, de la communauté chrétienne et au-delà, on peut le faire. Mais à partir du moment où on a recours à des termes agressifs, à partir du moment où c'est la violence, à partir du moment où il y a des propos haineux, je pense que là, on ne peut pas l'accepter de la part de chrétiens, en tout cas. C'est ça qui est en cause. À partir du moment où les chrétiens peuvent s'exprimer de manière pacifique, c'est tout à fait leur droit de le faire comme certains l'ont fait au moment des manifestations. Mais à partir du moment où on distille du venin, où on appelle à la violence, ça n'est pas acceptable.
Place à présent à l'invité du dimanche de Sœur Catherine Aubin. Le Conseil pontifical pour la famille organisait cette semaine 2 jours sur la crise de la transmission entre les générations et avait invité à cette occasion une Française, Marie Balmary. Elle est l'invitée donc de ce dimanche, interrogée par Catherine Aubin. Marie Balmary exerce la psychanalyse à Paris. Après une première recherche sur les fondations de la psychanalyse, elle entreprend une relecture des récits fondateurs pour nos cultures de la parole, c'est-à-dire essentiellement la Bible dans ses langues originales, l'hébreu et le grec. Plusieurs ouvrages rendent compte de ces nouvelles interprétations. Elle a publié entre autres « Le sacrifice interdit »,« La divine origine, Dieu n'a pas créé l'homme », »,« Abel ou la traversée de l'Éden » ou encore « Le moine et la psychanalyste ». Écoutez-la, interrogée donc par Sœur Catherine Aubin.
Marie Balmarie, vous êtes connue par vos nombreux livres, des livres sur des textes fondateurs de la Bible. Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que vous avez écrit une thèse et cette thèse n'a pas été accueillie. Et c'est une thèse dont le sujet est la prise de conscience. Mmh. Est-ce que l'on peut dire que finalement ce sujet vous a suivi jusqu'à aujourd'hui ?
Tout à fait. Peut-être que si on l'avait accepté, je l'aurais abandonné, ce sujet. Mais en tout cas, je crois que c'est le fil rouge de ma recherche. C'est le devenir conscient, s'éveiller à la conscience. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus dans mon métier. Mais c'est là-dessus qu'est fondée la psychanalyse. Donc, en soi, ça n'est pas étonnant. On disait, quand j'étais jeune psychologue, que l'efficacité de la psychanalyse était mystérieuse. La raison de son efficacité, c'était la prise de conscience. Donc voilà, je voulais comprendre ce qui était efficace dans la psychanalyse, qui faisait qu'on pouvait aller vraiment tellement mieux.
La prise de conscience, c'est un éveil ?
Dans mon esprit, oui. Il y a le mot prise, mais c'est un éveil. Un jour, à un moment, on réalise, comme on dit, j'ai réalisé que cette chose que je vivais comme ci, comme ci, comme ça, était en fait une mémoire douloureuse dans ma vie ou quelque chose comme ça. Je crois que nous savons tous ce que c'est que de prendre conscience. On n'a pas toujours besoin des psychanalystes, heureusement, pour ça. Et c'est un grand passage à chaque fois. Et l'éveil du sujet, l'éveil de la personne, ça change tellement la vie. Que vraiment ça vaut la peine, je trouve. Enfin, pour moi, j'ai trouvé passionnant de me lancer dans cette recherche et dans ce métier.
Alors, vous avez étudié très profondément, et vous le continuez, des textes fondateurs dans la Bible. Quel est le rapport ? Est-ce que vous avez un rapport entre cette étude et les prises de conscience ? Vous avez trouvé dans la Bible des gens qui ont pris conscience de façon très, très intense ?
Oui, je pourrais dire cela. Je crois que le premier texte sur lequel je suis vraiment tombée, si on peut dire, parce qu'il me paraissait éventuellement très mortifère, c'était le sacrifice d'Abraham. Et il y a beaucoup de façons de le lire, mais ça ressemblait beaucoup pour moi à quelqu'un qui prend conscience de à quoi il croyait avant. Il croyait que Dieu allait lui demander son fils. Et au bout de 3 jours, alors... C'est raconté comme la voix divine lui parle, mais d'où est-ce qu'elle vient cette voix divine ? Quand les gens se mettent à croire à autre chose, à une autre... Mais je suis frappée de ça, qu'il met 3 jours à changer de Dieu et à entendre ce que toute conscience de père pourrait dire, ne fait aucun mal à l'enfant. Or, pendant 3 jours, il n'a pas entendu cette parole-là. Il a entendu... une voix qui s'appelle Elohim, c'est-à-dire, ça peut être tous les dieux d'un certain sens, c'est un pluriel, qui lui demandait, croyait-il, d'immoler son fils. Et puis, au bout de 3 jours, il entend autre chose. Il entend l'ange d'Adonai qui lui dit « ne fais aucun mal à l'enfant », qu'il arrête. Et ça, ce mouvement-là profond, qui fait quelqu'un cesse d'obéir à un ordre mortifère et prend conscience de ce qu'il ressent et de ce qu'il croit, et de ce qui est favorable à la vie, ça, c'est un éveil extraordinaire. Je pense que c'est une des histoires les plus importantes dans l'histoire du monde.
Mais finalement, la parole qui est dans la Bible, la parole que Dieu nous donne dans la Bible, est-ce que ce n'est pas une parole justement où il nous engendre, où il nous fait naître à nous-mêmes ? Puisque vous le dites vous-même, je crois... Genèse 12, quand le Seigneur dit à Abraham « pars », en fait, pars vers toi-même.
Oui, et c'est là qu'on voit la différence entre une idole et ce Dieu mystérieux de la Bible. L'idole dirait plutôt « viens vers moi ». Et quelle est cette voix qui dit « va vers toi-même, va pour toi-même » ? C'est le contraire, évidemment, c'est un mouvement tellement autre. Et d'ailleurs, cette parole, elle va lui être redite au moment où il entend qu'on lui demande son fils. Il y a des germes à chaque fois. L'homme n'est pas pris dans l'idolâtrie dans la Bible, c'est ça qui est étonnant. Il commence par être idolâtre. C'est pas un texte où tout est beau et tout est rose, c'est un texte de métamorphose.
Vous employez le mot métamorphose, métamorphose, transformation. Oui. Il y a un lien entre la prise de conscience, l'éveil, la transformation et la métamorphose.
Oui, oui, tout ça, ce sont quatre mots pour dire sans doute la même chose. Les mots sont souvent trop petits et ceux-là ne font pas exception à la règle. Mais c'est là qu'on voit que ce n'est pas, la prise de conscience, ce n'est pas intellectuel. Parce que l'intellectuel ne fait pas de métamorphose. C'est un mouvement profond d'un être, cœur et esprit à la fois, qui peut engendrer une métamorphose. Alors, quelle est cette parole qui vient et que l'homme entend à son heure, parce que ça ne peut pas se décider comme ça, par décret ou se scolariser comme on apprend 2 et 2 font 4. À son heure de croissance, à son heure de relation, il va entendre quelque chose d'autre que ce qui l'a servi, que ce qui l'empêche d'être lui-même.
Dans tout votre chemin, Marie Balmary, quels ont été les points justement qui pour vous ont été comme des tremplins de métamorphose? Est-ce qu'il y a eu des passages que vous pouvez nous partager?
D'abord, il y a eu ma propre analyse, j'en dirai pas plus, mais évidemment ça a été le premier grand passage dans cette voie-là. Il y a aussi, si nous revenons à la Bible, il y a eu des rencontres. Alors il y a eu celle du texte d'Abraham lu en hébreu, où j'ai vu que Dieu ne lui demande pas de sacrifier son fils. C'est un mot hébreu qui peut vouloir dire élevé. Alors ces mots-là sont à double sens et permettent de passer d'un état à l'autre, ce qui est quand même remarquable.
Il me semble que la psychanalyse, elle nous amène à découvrir qui on est plus profondément, mais parfois il y a une étape qui demande, qui permettrait encore une guérison peut-être plus profonde, qui est celle de l'amitié, celle d'être accueilli, d'être aimé comme on est.
Et je crois que rien ne se passerait en psychanalyse, comme me disait une collègue quand j'étais une jeune, toute jeune analyste et encore en analyse, elle me disait « si tu ne te sens pas reconnue et aimée par ton analyste, change-en ». Et ça m'avait bien réveillée, je m'étais dit « ah bon ». Mais Freud le dit quelque part, que c'est l'amour qui guérit, il a pris ça chez Platon, ça c'est tout à fait important. Mais je crois que le mot « conscience » lui-même, m'a enchantée quand j'ai trouvé l'étymologie « cum sire », savoir avec l'autre. L'inconscient, ce n'est pas ce qu'on ignore, c'est ce qu'on sait sans avoir pu le savoir avec quelqu'un d'autre. Parce que l'autre n'était pas au rendez-vous, parce que l'autre ne voulait rien en entendre. Il y a un statut très bizarre des choses que nous savons tout seuls. La conscience s'éveille quand il y a une relation de conscience. Et je trouve ça très merveilleux, moi, cette étymologie. Savoir avec l'autre, puis savoir avec soi-même. Ce sont les deux sens en latin, en grec, enfin, dans beaucoup de langues.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, une chose que je souhaite, c'est que, croyant ou pas croyant, nous ayons accès à des textes comme ça. Parce qu'il me semble qu'ils permettent, évidemment si on a un accès assez juste, ils permettent de mettre le langage en place, de mettre la parole en place, de mettre les différences en place, de sortir de la confusion. Ça permet de sentir, par exemple, qu'être serviteur et être fils, c'est pas pareil. Et de pouvoir le penser. Ça autorise à penser des choses comme aussi importantes que ça. Par exemple, il y a plusieurs paraboles qui parlent de ça, de ce passage de l'un à l'autre, ou de cette incompréhension momentanée, ou de ce blocage dans le genre le fils aîné de l'enfant prodigue, ou le troisième serviteur de la parabole des talents. Et ça nous parle. On comprend qu'on peut être bloqué dans un statut de créature qui a reçu un don. On est dans la culpabilité, on est dans la honte, on est dans plein de choses qui se soignent dans les cabinets d'analystes. Alors c'est pour ça que ça nous paraît très important.
Est-ce qu'on peut dire finalement, je peux le poser à une psychanalyste, l'évangile de Jean serait l'évangile de la prise de conscience?
Ah oui, ça je signe à tous les coups.
Merci Marie Balmary.
Ainsi prend fin ce magazine de Radio Vatican. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. N'oubliez pas non plus notre page Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, où que vous soyez.